Bonjour, Raymond Richard au micro. Bien, nous nous retrouvons pour l'émission Histoire d'en savoir plus. Guy est à la technique. Et aujourd'hui, j'ai invité Sylvie Zamia, intervenante dans l'histoire de l'esclavage et des combats pour la liberté et l'égalité. Et vous voyez bien sûr l'aspect sensible de cette question, parce que c'est un domaine dans lequel il n'est pas facile de trouver des documents, il n'est pas facile de sonder les archives. Donc il y a tout un tas d'obstacles à surmonter, si j'ose dire. C'est pourquoi je remercie doublement Sylvie de venir à Radio Grand-Ciel pour parler de cela.
Bonjour, Raymond, merci de votre invitation.
Alors ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur cette question? Parce que finalement, ce n'est pas si facile que ça, de travailler sur l'esclavage.
J'ai 30 ans de réflexion sur l'histoire de l'esclavage. Je suis tombée dedans, en fait, par goût de l'histoire et par l'absence de réponse aux questions que je me posais moi-même en grandissant. J'ai donc décidé de m'inscrire à l'université en histoire, dans une université ouverte sur le tiers-monde, l'université Paris 7, et j'ai été le plus loin que j'ai pu dans le travail de recherche pour mieux comprendre qu'est-ce qui faisait que le monde était multiculturel, multicoloré aussi, et qu'il y avait des difficultés à vivre ensemble. Donc j'ai un père antillais qui est venu en France au début des années 50, qui s'est marié avec ma mère drouaise. Et moi je suis née en France, j'ai presque grandi depuis ma petite enfance à Dreux. Et je n'ai pas souffert principalement du racisme, mais j'observais le racisme. Et puis enfant, je suis née dans les années 59. J'ai vu les grandes marches à la télévision de Martin Luther King. J'entendais parler de l'Afrique du Sud et de l'apartheid. Et je voyais mes compatriotes antillais se sentir mal à l'aise. Moi, j'étais entre deux mondes, même trois. Je ne sentais pas de douleur. Mais je savais qu'il y a quelque chose qui ne nous était pas expliqué, qui était certainement à l'origine de ce malaise et de ce racisme latent, ambiant, permanent.
Et alors là, nous sommes encore avant l'émancipation des colonies. Donc il y a aussi tout un combat qui est tout un état d'esprit de ceux qui sont favorables à la colonisation, de ceux qui veulent décoloniser. Et puis, il y a aussi la parole à entendre des populations des pays, la population de ceux qui constituaient les élites et qui se disaient, une fois que les Européens sont partis, à nous le pouvoir, mais aussi la parole confisquée de ceux qui étaient les petits, le peuple, tout un monde. Alors, par quel bout le prendre? C'est ma question.
Oui, alors j'ai dû commencer par un bout. Et l'ouverture que m'a apportée sur les questions du monde et de ce monde qu'on n'entendait pas, les voix du tiers-monde, à l'université, m'a permis de commencer à avancer dans ma recherche sur la compréhension de notre monde.
Alors, il y a fini par comprendre notre monde, qui est un monde où l'esclavage est aboli, au moins dans les textes, partout, pour tous. Même si, ici ou là, il y a, entre guillemets, de bons restes. Donc, parlons un peu plutôt de la France, puisque, en fait, c'est cette histoire-là qui nous intéresse plus. Et c'est dans cette histoire-là que vous intervenez dans les écoles. Donc, en France, on a aboli l'esclavage à la Révolution française, en gros. Alors racontez-nous un peu, là, donnez-nous quelques repères, parce que moi je dis en gros la Révolution française, c'est revenu 1848 après. À vous, éclairez-nous un peu là-dessus.
En histoire, on peut s'arrêter sur une date, un événement, mais là, Eh bien, on ne peut pas vraiment répondre juste sur la date de l'abolition, la première abolition, sans l'inscrire dans un contexte historique.
Les philosophes, non ? C'est qui ? C'est qui, c'est quoi ?
Justement, vous allez comprendre que j'ai commencé par les débuts de la colonisation française aux Antilles et je me suis retrouvée au XVIIe siècle, sous Richelieu, en 1620, 30, 35, où le grand projet de Richelieu, c'est de coloniser les petites îles des Antilles. Donc entre 1635 et 1789, 93, 14, les décrets sur l'abolition, il y a presque un siècle et demi. Donc ça veut dire qu'il y a un processus de mise en esclavage des populations importées d'Afrique dans un but. Ben, le but s'inscrit lui-même dans un cadre encore plus vaste qui date de la
découverte
des grandes découvertes. Donc, la recherche de la route des épices, de la soie, des produits de luxe, dont le sucre. Et lorsque Christophe Colomb, en 492, tombe sur les terres américaines, il ignore complètement qu'il y a un continent, mais il revient en Espagne dire à ceux qui ont financé son voyage, au roi et à la reine d'Espagne, qu'il y a de l'or, qu'il y a des hommes qui ne nous ressemblent pas, qu'ils sont des sauvages et qu'on devrait sans difficulté occuper leurs terres. Et donc d'autres navires vont partir, des dizaines et des centaines. Et cet or, il ne va pas être trouvé sur les petites îles sur lesquelles aura débarqué Christophe Colomb, mais ils vont provenir des terres que les Espagnols vont découvrir, conquérir, s'approprier. Et les terres du Pérou, les terres des Incas, des Aztèques, qui va amener à une destruction des populations de 1 pour 10. Donc des millions de morts par la maladie et la guerre. Mais ça va donner une envie terrible aux autres peuples et pays d'Europe d'avoir aussi un bout de gâteau. Et c'est là que...
Envie vers l'or, première étape.
Il ne reste que les petites îles. Les Espagnols ont établi un empire réellement en Amérique du Sud, en Amérique du Centre, et en laissant un petit bout aux Portugais. Enfin, c'est une course folle, terrible, où l'appât de l'or, malgré les bulles du pape, etc., malgré Las Casas qui va dire « ne détruisez pas ces peuples autochtones, ils ont une âme », la conquête va se poursuivre et va déboucher sur des terres colonisées par les Européens.
Ça veut dire que déjà, là, la recherche de l'or, donc de la finance, si j'ose dire, fait que l'homme est inféodé.
Oui, l'enrichissement aveugle.
On a oublié les hommes.
Complètement.
Les cris de Bartolomé de Las Casas et d'autres.
Oui, ça ne concerne toujours qu'une poignée d'hommes. Ce n'est pas des peuples, ils ne sont pas conscients, ils ne connaissent pas ce qui se passe même, je pense, de l'autre côté de l'océan, pour la plupart des gens. En regardant dans le Perche, dans la Beauce.
J'imagine que le percheron de base, il ignore absolument tout ce qui se trame dans la cour des rois d'Espagne et du Portugal, puis ensuite du roi de France.
Donc,
c'est sûr.
On tombe dans une époque où la monarchie est en train de se transformer, d'être absolu ensuite au XVIIe siècle pour la France, ça veut dire de prendre en main cette histoire de colonie. C'est ce que va faire ensuite, à la suite de Richelieu, Colbert et Louis XIV,
le roi. C'est là le code noir.
Va rayonner. Mais là, c'est une véritable entreprise. C'est-à-dire qu'il faut énormément d'argent pour financer une colonie une colonisation, si je puis dire. Il faut armer des navires, et donc ils vont créer des compagnies. Le roi va demander que ce soit fait officiellement. Et le problème de la France, je pense, c'est d'avoir fait, c'est le seul pays, un code noir qui veut essayer de, en soi, de, qu'il n'y ait pas d'abus, d'excès, qui veut ménager c'est la vie des esclaves sur les plantations et qu'il n'y ait pas d'abus du côté des maîtres, mais quand même qui régit un système d'esclavage et qui légalise l'esclavage. En fait, l'esclavage, la traite, hein, puisque là, on n'a pas parlé de la traite, mais pour que ces colonies soient rentables, il va falloir d'abord un peuplement de Français pour dire que c'est bien une colonie. Hein, il faut être 20 ans sur une terre pour qu'elle soit déclarée colonie. Et ensuite, il va y avoir le projet de la plantation sucrière qui va demander une forte main d'œuvre, et c'est là que la traite qui a déjà commencé depuis le milieu du XVe siècle, qui est tenue par les Portugais et les Espagnols, les grandes compagnies, eh bien, va se mettre en place à partir de la décision des rois, en fait, Louis XIII, Louis XIV, ils vont légaliser la traite et l'esclavage en même temps. Il n'y a pas d'interdiction au-delà de la ligne, comme on disait quand on traversait l'océan, à ce qu'il y ait de l'esclavage. Mais il y aura toujours des voix qui s'élèveront contre. Plus le processus s'amplifiera, la recherche de gains, évidemment, ça rapporte énormément le sucre, donc le développement de cette plantation va amener à ensuite une nouvelle colonisation d'une nouvelle île, qui est celle de Saint-Domingue, qu'on appelle Haïti aujourd'hui, au début, fin 17e, début 18e. Les petites îles de la Martinique et de la Guadeloupe vont servir de laboratoire, en fin de compte, où on va mettre en place le système colonial, avec ses gouverneurs, ses intendants, sa loi, etc. Et tout est prêt pour la colonisation ensuite de Saint-Domingue et l'implantation d'une nouvelle colonie qui, elle, est gigantesque, à côté des petits cailloux de Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante. Et c'est à ce moment-là que, vraiment, on sort de la petite échelle, on rentre dans la démesure, et que les terres sont si grandes, si vastes, les fortunes du royaume, les armateurs, négociants, marchands se lancent dans l'aventure, alimentent en main-d'œuvre les colonies en pratiquant la traite sur les côtes.
Donc on a le commerce triangulaire et son apogée, l'enrichissement des villes de l'Ouest, de l'Europe.
La France va devenir la première place au niveau de la production sucrière. Et au niveau de son empire colonial, on ne parle pas de l'Amérique et de la Louisiane et des immenses terres occupées par les Français, mais on est dans un monde où l'Europe se répand sur le reste du continent, avec ses mauvais et ses bons côtés, hein, parce qu'il y a des destructions de population, il y a le trafic d'hommes. Il y a donc des protagonistes, hein, des partenaires. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel.
feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. You shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Retrouvons l'émission Histoire d'en savoir plus et Sylvie Zamia dans l'histoire de l'esclavage et des combats pour la liberté et l'égalité.
Pour aller chercher la population noire, il fallait quand même aussi, entre guillemets, des complicités ou pas de complicités, mais en tout cas que des royaumes noirs le favorisent aussi, non ?
Ils ont trouvé aussi leur compte, mais pareil, ce n'est pas la population qui est concernée, elle est plutôt victime de cette traite, mais les rois, les négociants, marchands, négriers africains qui servent les intérêts de leur roi ou de leur chef vont
donne
être
la main
les
aux vont, armateurs de Nantes et de Bordeaux
vont faire, être, bref. Exactement.
On va faire un saut dans le temps parce que vous savez le temps tourne. Alors donc là il y a la mise en place de cette colonisation qui va durer, perdurer, et avoir les horreurs qu'on a pu lire ici ou là, la case de l'oncle Tom, enfin, là c'était en Afrique du Sud, mais enfin, ou ailleurs. Quelles sont les prémices aussi? Parce qu'il y a quand même tout de suite des gens qui ont dit, mais ça n'est pas normal, les hommes doivent respecter les hommes. C'était une civilisation chrétienne qui organisait cet esclavage. Alors racontez-nous comment on en est venu quand même au combat pour la liberté et à l'abolition de l'esclavage.
Oui, les voix, les premières, ont alimenté, nourri cette réflexion sur l'égalité des hommes entre eux. Au niveau, ils ont une âme, voilà, en Afrique, comme aux Amériques, les Amérindiens. Ceux qui ont cette conviction chrétienne, humaine, ont essayé de persuader ce qu'a fait Las Casas, mais l'intérêt a dépassé, a gagné. Et à un moment donné, les grands, les royaumes ont... Il ne faut pas trop parler de cela. D'abord, voilà, toutes les raisons, il y avait une liste de raisons pour lesquelles la traite pouvait être pratiquée, malgré... les oppositions du point de vue chrétien.
Du point de vue des philosophes.
Du point de vue des philosophes, sont partis pris pour les idées d'égalité, principalement, entre les hommes. Et, pas principalement pour des raisons morales, c'est plutôt de mettre en avant que ce n'est pas parce que. Ces hommes ont une autre couleur qu'ils ne sont pas nos égaux. Et c'est un combat donc pour l'égalité et pour la liberté de ces gens. Ils doivent être libres et non pas être esclaves, que les philosophes ont commencé à argumenter et à débattre au moment où on revient au pic du système de plantation esclavagiste.
Alors, entre ceux qui produisent le sucre, qui le transportent et qui font de l'argent, en Espagne ou au sud, dans ceux qui transportent l'or, et puis ceux qui disent les hommes, ce sont des hommes, les noirs ou les blancs, donc effectivement, le combat semble perdu d'avance.
Non, pourtant, à ce moment-là, non.
Pourtant, oui, c'est ça. C'est...
Parce qu'on est tombé dans un tel excès. Toute l'Europe, l'Angleterre, la Hollande, le Portugal, l'Espagne, la France s'enrichissent. C'est, tous ces pays s'enrichissent sur le commerce triangulaire, la traite et l'exploitation d'autres hommes sur des plantations en les asservissant. Donc au début, ce sont une petite quantité, en petite échelle, mais... Ça bascule au XVIIIe siècle, mais dans une proportion telle que c'est jusqu'à 80 000 hommes, une moyenne on dit de 50 000 hommes qui sont transportés d'Afrique aux Antilles, aux Amériques plutôt, par an. Ça monte jusqu'à 80 000, 100 000. Donc là, ça ne peut plus passer inaperçu. On voit effectivement les grandes villes, villes portuaires se transformer. Sur le plan du bâti, de l'urbanisme, partout.
On s'enrichit et on construit des hôtels particuliers. Oui. Alors, on fait encore un saut dans le temps. Voilà. Comment on en arrive à Condorcet, les droits de l'homme ?
Et ils sont scandalisés. Ils voient cette évolution sous leurs yeux du grand négoce soutenu par les États. Puisque c'est légal, et c'est tout un réseau, souvent des familles qui s'unissent, de Saint-Malo, La Rochelle, Le Havre, Nantes, jusqu'à Cadix, en Angleterre.
Des réseaux déjà.
En Hollande, et ce sont les Hollandais qui vont avoir joué un rôle dans cette histoire, parce qu'ils maîtrisaient la fabrication du sucre, ils vont aider les Français vers 1650 dans les petites îles. Vous voyez, c'est pas écrit d'avance tout ça. Donc, moi j'essaie d'historiciser cette histoire et non pas de regarder de manière comme on le fait d'habitude, une image qu'on a fixe. Non, 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 il se passe ces choses de jour en jour, d'année en année. Et les Hollandais vont s'installer à Orléans pour la production du sucre, parce qu'ils sont extrêmement forts pour raffiner le sucre. Et Orléans va devenir, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la première ville qui va produire du sucre dans le royaume. Il va fournir 50% du sucre dans le royaume de France. Et pourquoi Orléans ? Et parce que...
Mais on remonte la Loire.
Et bon, remonter la Loire. C'est un fleuve navigable. Et donc les marchandises qui vont être sur la Loire vont aller dans un sens fournir les marchandises pour la traite au port de Nantes. Les marchands, les négociants, les armateurs attendent ces marchandises destinées à la traite, nourriture pour les esclaves, les armes pour les échanger, et derrière tout un monde de travail.
Oui, la biscuiterie nantaise, tiens.
Après, c'est plus tard. Mais tout un monde travaille à produire des fèves pour nourrir les esclaves sur les navires, des clous pour les navires, les fers pour enchaîner les captifs, peut-être avec une idée très vague de ce qui se passe. Mais ceux qui font ce commerce savent très bien. Et donc, c'est le commerce rapporte lorsque la boucle est bouclée, c'est-à-dire lorsque... Le capitaine Négri aura réussi à remplir son bateau du nombre de captifs prévus, 1000 et quelques livres à l'époque, l'homme ou la femme, 12 euros c'est une livre à peu près. Et je parle du XVIIIe siècle, où tout ça tourne très très bien, effectivement. Si tout se passe bien, parce qu'il y a beaucoup de risques.
Alors pourquoi y a-t-il eu le coup d'arrêt à la Révolution française ? Parce que finalement, quand même, puisque tout le monde, puisque ça allait bien et que ça enrichissait tout le monde, on voit pas pourquoi d'un seul coup. Donc il y a quand même bien aussi l'idée que c'est pas possible.
Il faut connaître ces conditions justement, dont je suis en train de vous parler, du trafic, de la traite. Ça veut dire des conditions insoutenables pour les gens qui sont pris, échangés contre des marchandises pour aller aux Antilles. Déjà ça, les premiers philosophes et philanthropes, les Anglais beaucoup, en premier, puis Voltaire, même si on dit qu'il a eu des parts dans ce commerce, mais s'insurge. C'est à ce prix que vous mangez du sucre. Et Diderot, voilà, et un certain nombre d'autres se disent, ce que nous, nous savons, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'après, une fois qu'on sait ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on trouve que c'est normal? On ne dit rien? On reste insensible? On continue à consommer du sucre sans réfléchir? Non, il y a des penseurs, des philosophes, philanthropes, humanistes, héritiers de tous ces grands combats et soucieux du respect de l'homme. Et des valeurs chrétiennes qui restent, qui traversent aussi tout le temps, l'abbé Grégoire notamment, s'insurgent parce qu'ils savent. Ils savent qu'une campagne de traite, c'est 4-5 mois le long des côtes. Pendant ce temps-là, on entasse des hommes. Ils savent que ces hommes sont amenés par leurs compatriotes africains après des jours et des jours de marche, séparés de leur famille, arrachés à leur village par des guerres, que les hommes se font, les royaumes se font entre eux, pour alimenter la demande des Européens qui attendent sur les côtes, ou dans leurs forts qu'ils ont construits, toute la côte africaine est munie de forts. Et pour pratiquer ces échanges, et une fois que le navire est rempli, ça va atteindre jusqu'à 400, 500, 600 captifs à un moment donné. Et les armateurs vont se dire, ben non, on perd beaucoup trop de monde sur 600 captifs, on va en mettre moins. Il y a toute
une réflexion qui s'est faite en disant, il faut tenir compte quand même, la marchandise meurt, ça va pas.
Tout le temps, voilà, ce négoce est rentable quand les captifs réussissent à arriver vivants en nombre suffisant et vendus ensuite, acquérant le statut d'esclave dans l'île, dans les îles, parce qu'ils sont vendus très cher par rapport aux marchandises contre lesquelles ils ont été échangés. C'est un ballot avec du tissu, un ballot type qui comprend des marchandises pour échanger les captifs en Afrique, avec des négociants africains très exigeants qui discutent. Donc, les armes, notamment, vont servir après à capturer d'autres esclaves. Et une fois aux Antilles, le prix triple. Et une fois que ce commerce a été réalisé, cette vente, les navires partent avec le sucre principalement issu des plantations. Donc il faut sans cesse alimenter en main d'œuvre. Et quand le pic va être atteint, eh bien c'est 500 000 esclaves, pour vous donner un exemple avec Saint-Domingue, pour 40 000 libres. Voilà, et ça explose.
Donc, nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous savons donc que l'esclavage a été une plaie et nous arrivons aux Antilles. Et on a vu donc la croissance de ce trafic. Eh bien, dans une prochaine émission, nous vous proposerons la suite pour voir justement comment on est arrivé au combat pour la liberté et l'égalité. Aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous, au revoir.
Merci, au revoir.